Bienvenue. Vous écoutez FinTech, le podcast de France FinTech qui donne la parole à celles et ceux qui réinventent la banque et l'assurance. Litchi, Ulu, Luco, Bankin, Lydia, Conto, vous avez sans doute déjà entendu leur nom au moins une fois, vu leur pub dans le métro et peut-être même utilisé leur service. Saviez-vous qu'on les appelle FinTech, AssureTech et RegTech, contraction de finance, assurance, régulation et technologie ? C'est pour apprendre à les connaître et mieux comprendre les enjeux de leur métier que nous avons créé FinTech. Je m'appelle Anaëlle Gauthier et chaque semaine, je vous emmène à la rencontre de ces entrepreneurs et entrepreneuses qui façonnent les nouveaux services financiers. Bonne écoute! Pour ce nouvel épisode de FinTech, nous allons parler de financement de la rénovation énergétique. Une discussion avec Manuel Letor, le cofondateur de Frida Green. Un petit mot avant de vous laisser écouter notre discussion, ce podcast est réalisé avec le soutien de Majorel, un des leaders mondiaux de l'expérience client. Pourquoi Majorel ? Parce que son savoir-faire consiste à gérer, au nom des plus grandes marques, les interactions et les conversations avec leurs clients. Des clients qui attendent des expériences simples et fluides, tout en demeurant humaines. Mais aussi parce que Majorel accompagne les services clients des jeunes entreprises technologiques avec le programme dédié MajUp et qu'il est le partenaire de deux des plus grands incubateurs et accélérateurs européens de start-up, Wilco et Eura Technologies. Je vous laisse écouter notre discussion avec Manuel tout de suite. Bonjour Manuel.
Bonjour.
Bienvenue sur FinTech, merci pour ta disponibilité. Est-ce qu'on peut commencer notre échange par une petite présentation de ta part, s'il te plaît ?
Ouais, bien sûr. Donc je m'appelle Manuel, j'ai une quarantaine d'années, je suis le CEO de Frida Green, je suis basé à Bordeaux et donc du coup voilà, je dirige cette startup depuis à peu près 3 ans.
Super, et on va évidemment revenir plus en détail sur le parcours et notamment ces 3 dernières années. Mais avant ça, est-ce que tu veux bien m'expliquer ce que tu as fait avant de lancer Frida Green, s'il te plaît ?
Bien sûr. Moi, j'ai commencé très tôt dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé à 26 ans. Je fais des études de commerce. J'ai bossé dans une grande banque. Très tôt, j'avais un environnement familial d'entrepreneur. L'entrepreneuriat m'a intéressé. Donc, à 26 ans, j'ai monté ma première boîte, plutôt classique. C'était dans l'intermédiation de crédit. Et j'ai fait ça pendant quasiment 12 ans sur Bordeaux. C'était une super expérience. Cela étant, j'ai toujours été un peu frustré de pas avoir le temps de pouvoir développer des produits ou des services plus aboutis. Et c'est en partant un peu à l'étranger, j'étais vivre deux ans à l'étranger au Portugal, où j'ai eu le temps voilà de maturer un petit peu tout ça et de me lancer dans l'expérience, dans l'aventure startup. Donc entrepreneuriat depuis une quinzaine d'années.
Oui, c'est ça. Tu dis que tu as un environnement qui a favorisé aussi l'émergence de ça chez toi, tu penses, de cette vocation, on va dire, entrepreneuriale?
Oui, complètement. C'est très dans la tête, hein, prendre le risque de devenir entrepreneur. Je suis issu d'une famille nombreuse. J'ai 2 frères, 2 sœurs. Ils sont tous indépendants. Mes parents étaient indépendants et ma compagne vient d'une famille de commerçants également et d'entrepreneurs. Donc j'ai baigné très très tôt dans cet environnement-là. Et donc c'est pour ça que je me suis plus senti à l'aise en tant qu'entrepreneur qu'en travaillant dans des grands groupes.
Oui, et puis ça doit démystifier aussi un peu tout ce qu'on met derrière l'entrepreneuriat, aussi de voir autant de gens autour de soi faire partie de ça. Quoi.
Complètement. Pour moi, c'était presque plus logique et on m'attendait sur « Ok, ça va être quoi ton business ?» plus que dans quelle boîte tu vas bosser. Ça a énormément d'avantages, l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de contraintes parce qu'il y a beaucoup de risques. Et c'est souvent ça qui fait très très peur, et forcément d'être backé très tôt, d'avoir du partage d'expérience très tôt, c'est quelque chose qui rassure et qui permet de se lancer beaucoup plus facilement.
Ouais, j'imagine bien. Super intéressant. Et alors du coup, ta première entreprise, c'était déjà dans le secteur financier ?
C'était déjà dans le secteur financier. Donc moi, je viens de la banque à la base. Donc j'ai découvert le secteur financier dans une grande banque, et ensuite, j'étais sur Paris. Pour ça, je suis pas original, c'est sur Paris, je suis parti vivre à Bordeaux. Et en arrivant sur Bordeaux, les offres sont quand même complètement différentes. J'avais déjà eu une expérience intéressante à Paris et j'ai rien trouvé de significatif. Et j'ai bossé pendant quelques mois, c'était en 2005, 2006, pendant quelques mois chez un courtier en crédit immobilier. Je connaissais un peu, de par mes activités bancaires, l'intermédiation de crédit, donc courtage en crédit immobilier. J'y ai bossé quelques mois, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, le marché était très porteur, et en quelques mois, du coup, j'ai décidé de me lancer, de monter ma boîte. Donc c'est vraiment de l'intermédiation de crédit, petite boîte locale. Donc on n'a jamais eu de déploiement national, mais tout de suite, par contre, j'ai eu une sensibilité web et tech, mais surtout web, ou à l'inverse du modèle traditionnel dans l'intermédiation de crédit, qui est le revenu sharing, c'est-à-dire c'est un peu comme chez les agents immobiliers, tout le monde est indépendant et on paye tout le monde une fois que la transaction est réalisée. Moi, je suis arrivé sur Bordeaux, j'avais pas de réseau, donc j'avais pas d'apporteur d'affaires. Donc tout de suite, j'ai commencé à monter un site internet et à faire l'acquisition client. Et tout de suite, je me suis rendu compte qu'on pouvait vachement processer ce type d'action parce qu'on a un lead qui tombe, on peut automatiser un certain nombre de choses. Et donc très tôt, j'ai commencé à avoir un système très très automatisé qui restait local. Hein. On était maximum 7-8 dans cette boîte, mais du coup très orienté quand même automatisation et acquisition web.
Oui, donc tu as déjà appris plein de choses et touché à plein de choses avec cette première expérience-là. Et qu'est-ce qui a fait que ça t'a mené ensuite à Frida Green ?
Alors, il y a eu Frida au milieu. On pourra peut-être faire un rapide passage. On a commencé par Frida et ensuite Frida Green. Frida Green est un pivot de Frida. Ce qu'on a commencé à faire, donc Frida, simple, c'est une application mobile pour reprendre le contrôle de son crédit immobilier. Ce qui m'a lancé dans l'aventure startup, c'est plusieurs choses. C'est déjà, comme je le disais, depuis des années, j'avais commencé à travailler un peu sur des produits au sein de ma précédente boîte, mais compliqués à mettre en œuvre, compliqués à développer. Et donc, du coup, j'avais envie de vraiment lancer quelque chose de beaucoup plus gros. J'ai failli monter un business au Portugal dans l'intermédiation de crédit. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer dans l'intermédiation de crédit. Donc, la première chose, c'est une réaction suite à une évolution de marché. Pour moi, le marché s'est transformé à partir de fin 2019. Les banques ont décidé de rebattre les cartes sur les relations entre les courtiers et les banquiers. Ça a changé plein de choses dans l'intermédiation de crédit. Et on s'est rendu compte que c'était quand même quelque chose de très old school. Hein. Il y avait soit le courtier, mais c'est le courtier classique ou le courtier en ligne, soit la banque directement. Et on s'est dit que il y avait des attentes clients importantes autour de l'usage, de pouvoir être autonome, de pouvoir faire les choses soi-même. En gros, il y a des algorithmes. Enfin, aujourd'hui, nous, on a des algorithmes qui permettent de générer des plans de financement basés sur des conditions bancaires que l'on agrège sans faire un rendez-vous. Pour la petite histoire, hein, aussi, un des déclics, c'est quand je travaillais toujours dans l'intermédiation de crédit. Donc, j'étais à Bordeaux. J'ai un client parisien qui vient à Bordeaux pendant ses vacances et qui vient passer une heure dans mon bureau pendant ses vacances pour qu'en fait, je mette un plan de financement de 25 ans sur 20 ans. Et en plus, il était dev, hein, il était informaticien. Il me dit, ça, je peux le faire, en fait, modifier un plan de financement, mais je sais pas quel taux, je sais pas quel taux d'assurance. Et en fait, moi, mon seul job, c'était de prendre mon simulateur et de mettre le crédit de 20 à 25 ans et de dire, bah, sur 20 ans, le taux, il va être de temps et les assurances de temps. Donc ça, c'était un vrai déclic. Je me dis, c'est pas normal qu'on se déplace pendant une heure dans un bureau pour faire ce genre de choses. On doit pouvoir automatiser ce genre de choses. Donc l'idée, c'est la première chose, c'était un besoin de la part des utilisateurs de pouvoir être autonome. Et d'autre côté, c'était aussi répondre à une modification des relations entre les banques et les courtiers, puisque les banques souhaitaient traiter de plus en plus en direct avec les banques. Donc c'est cette évolution du marché, plus une appétence déjà depuis quelques années qui nous a lancé sur ce projet-là.
Super. Et alors, tu as mentionné qu'il y avait eu un pivot un peu sur l'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse, enfin l'idée de départ et pourquoi vous avez pivoté et ce que vous faites finalement aujourd'hui ?
Ouais. Donc l'idée de départ, c'est une application mobile. On a 120 000 utilisateurs, ça marche très très bien, mais c'est gratuit. Et donc du coup, il faut gagner de l'argent. On avait un modèle économique qui était orienté banque, L'idée de départ, c'était de vendre notre data auprès des banques. Et il s'est passé mars 2022, la crise en Ukraine, enfin la guerre en Ukraine et la crise qui a été générée, donc principalement autour du crédit immobilier. Donc on a une explosion des conditions de crédit. Ça a eu pour effet immédiat de restreindre, voire de fermer la distribution de crédit pour les banques en ligne. Et forcément, on était une application mobile, on discutait avec beaucoup de banques en ligne sur des parcours, des workflows in-app de distribution de crédit immobilier. Et du coup, c'était plus du tout un sujet d'actualité, crédit immobilier. Également pour les grandes banques nationales, hein, on discutait avec quasiment toute la place. On a commencé à dire on va attendre de voir début juillet, puis ensuite on nous a dit on va attendre début septembre. On pouvait pas attendre. Et aujourd'hui, on a bien fait parce que le marché est quand même toujours très sinistré dans la distribution de crédit immobilier. Donc, ce qui nous a poussé à réfléchir et à envisager autre chose, c'est des contraintes liées à notre développement où on n'a pas réussi à trouver notre modèle économique sur l'application mobile Frida. Elle existe toujours, elle est toujours très utilisée, mais on a décidé du coup d'aller plus loin. Ce qui nous a amené vers Frida Green, c'est des réflexions autour de notre modèle économique, surtout aussi c'est des rencontres. On a Shirink Advisor chez nous, qui est Head of Innovation chez Finastra, qui très tôt, dès l'été 2022, on a commencé à discuter, donc du coup, interaction avec les banques et ce qu'on appelle Green Mortgage, la finance verte. On a beaucoup discuté, on m'a beaucoup interrogé. Et je dis, on ne fait pas grand-chose là-dessus, c'est vrai. Et on a commencé à discuter avec les banques sur ces sujets-là. On s'est rendu compte qu'il y avait un sujet autour du financement de la rénovation énergétique. Et on a regardé, nous, ce que nous disaient nos utilisateurs. Et nos utilisateurs nous ont indiqué que c'est compliqué d'acheter, donc il y a un besoin d'aide à la vente. Nous, au début, Frida, on a dit on accompagne le premier achat immobilier et on se concentre en premier sur le financement. C'est ce qu'on a fait très bien avec l'application mobile Frida, mais nos clients, nos utilisateurs nous ont dit mais c'est compliqué. Et des événements particuliers, pour moi il y a deux événements, enfin il y a des événements, des évolutions législatives, et il y a un événement aussi de prise de conscience l'été dernier. Pour moi, c'est vraiment un tournant historique dans la prise de conscience du changement climatique, avec un été qui a été complètement hallucinant, et donc du coup une explosion de la conscience autour de la performance énergétique des biens. Tout le monde commence à parler des DPE. Enfin, moi, les DPE, ça fait 15 ans que je les connais. Ça n'avait jamais été un sujet très important pour moi. La performance thermique, je savais qu'il y avait des enjeux, mais je n'avais pas forcément conscience. Et donc, on a commencé à croiser ces éléments-là. Et le dernier déclic, c'est une jolie histoire. On a eu un poste de Bradway CEO qui s'est ouvert en stage. On a eu deux super profils. On a pris les deux super profils. Et un des deux profils... La personne était étudiante à Polytechnique HEC sur un master data science, et du coup on a dit on va en profiter pour aller taper un peu dans les bases de données open source. Il y en a des dizaines. La principale, c'est celle de l'ADEME. Tous les DPE, donc tous les biens immobiliers qui sont en vente, je sais pas, il y a peut-être 1 million de biens qui sont en vente aujourd'hui sur le marché, tous les biens qui sont en location, toute la donnée brute du DPE est à l'ADEME. Ça veut dire que la donnée brute, c'est la description extrêmement précise du bien immobilier, de quoi est composé le mur, de quoi est composé la fenêtre, quels sont les types d'isolants, quels sont les matériaux, tout est détaillé sur l'ADEME. Et on s'est rendu compte que cette base de données était open source et qu'on pouvait commencer à faire des modèles. Et on a commencé à faire des petits modèles dessus, à faire des petits calculs, et on s'est rendu compte qu'on commençait à arriver à prédire l'amélioration d'un DPE. Et c'est parti de là, en fait, au départ, Frida Green, sur un petit outil d'amélioration du DPE, un outil de prédiction d'amélioration du DPE. Et on s'est dit, en fait, il y a un sujet très important qui est le sujet de la rénovation énergétique, qui aujourd'hui est traité principalement lorsqu'on est propriétaire. Alors qu'on s'est rendu compte que le moment où on est propriétaire, c'est pas le meilleur moment parce que on est physiquement présent dans le logement. Compliqué de partir pendant 3 mois ou 6 mois pour faire les travaux. C'est compliqué à financer. On va avoir des aides. Il faut s'occuper du reste à charge. On va pas faire un crédit immobilier pour 20 000 euros de travaux. Alors que si on fait la rénovation énergétique au moment d'un achat immobilier, là, le bien, il est vacant, puisque le propriétaire va le quitter au moment de l'achat. On peut avoir 2-3 mois pour faire les travaux. On peut bénéficier d'un différé de crédit, c'est-à-dire qu'on ne paye pas le crédit tant qu'on n'a pas terminé les travaux. Et ensuite, on englobe tout ça dans un crédit immobilier, dans une phase, en fait, qui est une phase pas forcément cool. Il faut constituer un dossier de financement. Enfin, il y a plein d'administratifs et on met ça au meilleur moment. Donc, pour nous, le meilleur moment pour faire une rénovation énergétique, c'est au moment de l'achat. Sauf qu'il y a un problème qui est énorme. comment on fait quand on a une annonce immobilière, comment on fait quand on visite un bien immobilier pour supposer, pour prédire la rénovation énergétique. C'est très compliqué, on ne va pas faire venir un artisan au moment de l'offre d'achat, au moment de l'annonce pour lui dire, bon alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, c'est là où nous, on intervient. On est capable aujourd'hui, sur ces différentes phases, lors d'une visite, lors de l'identification d'un bien sur une annonce, de faire de la prédiction et du chiffrage d'amélioration du DPE. Ensuite, on s'est dit, bon, une fois qu'on sait faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le met juste à disposition des clients, ils viennent, on leur fournit notre techno, on a souhaité aller plus loin et donc du coup fournir un accompagnement end-to-end. On a vu cette frustration avec l'application mobile, bah, de regarder, juste on était observateur, on laissait les personnes se débrouiller, mais on ne pouvait pas interagir avec eux, c'était pas fait pour. Et on s'est dit, non, il faut essayer d'aller plus loin et donc créer une offre de service end-to-end. Ça veut dire être capable de sourcer des biens immobiliers, donc faire de la chasse immobilière, avec des forts potentiels de rénovation énergétique et esthétique. Donc, on utilise pour nous les outils de prédiction qu'on a développés. Une fois qu'on a fait cette capacité d'identification, on restitue à nos clients un projet clé en main. C'est-à-dire, par exemple, si tu viens chez Frida Green, j'ai un projet de 300 000 euros, ben on va dire, ben voilà, on propose ce projet-là, 300 000 euros, on achète un bien 220 000 euros, on va faire 80 000 euros de travaux, on va avoir un DPEG, on va en faire un DPEC, tu vas réduire de temps ta consommation d'énergie, tu vas augmenter de temps la valeur verte. Hein. La valeur verte, c'est quelque chose qui existe depuis 2013 chez les notaires, personne s'en occupe jusqu'à cette année. C'est la variation de prix entre deux biens identiques qui n'ont comme seule différence la performance énergétique. Et on se rend compte que de plus en plus, cette différence à augmenter. Et donc voilà, nous on va être capable de calculer tout ça et donc on est capable de te restituer un projet clé en main. Et donc du coup, on règle le problème que j'ai évoqué tout à l'heure qui était comment on anticipe et on prépare la rénovation énergétique. Ce qui veut dire que nos clients, quand ils arrivent au compromis de vente, ils ont un dossier technique complet qui indique tous les travaux qui vont être réalisés. Il y a les devis de tous les artisans. Ils savent exactement quelle va être l'amélioration de la performance énergétique. Et donc, du coup, il n'achète pas juste un bien immobilier qui est une passoire thermique. Il achète un bien immobilier avec un projet de rénovation qui va pouvoir s'exécuter dès que les travaux sont terminés. Donc ça, c'est la première phase. On s'est dit, on sait faire quelque chose de très bien, hein, c'est le financement. Donc, on accompagne avec des experts crédits l'obtention du financement. Alors, on va au-delà de juste l'obtention du financement avec les meilleurs taux. On va travailler sur deux choses, l'accompagnement à l'obtention des aides. Il y a plein d'aides, c'est très compliqué. Donc, on aiguille un petit peu et on aide nos clients là-dessus. Et tout ce qui est pré-bonifié aussi, éco-prêt à taux zéro, pré-green, entre guillemets. Donc, ça, c'est sur la deuxième phase qui est la phase financement. Et la troisième phase, c'est la phase d'exécution des travaux avec nos partenaires. Bon, on a créé un réseau de partenaires travaux sur toute la France. Et donc là, on va pouvoir suivre avec nos partenaires travaux l'exécution des travaux. Alors, c'est pas non plus des énormes travaux, hein. On fait pas un immeuble de A à Z, on va faire une isolation par l'intérieur, on va changer des fenêtres, on va refaire des peintures, on va changer une cuisine, une salle de bain. Donc ça reste des travaux raisonnables. C'est aussi ça des fois qui fait un peu peur à certains clients en disant oh là là, on va faire des énormes travaux. On dit non, on touche pas à la structure. On vient, on change une cloison et on la remplace avec une cloison avec un isolant. C'est des travaux qui sont quand même assez faibles en fait, hein, finalement. Mais on reste quand même présent jusqu'à l'exécution des travaux pour remettre à la fin un nouveau certificat de performance énergétique Frida Green. On dit bah voilà, le résultat de ce qu'on vient de faire ensemble.
Hyper intéressant. Et alors, j'ai une question parce que tu disais que sur l'application, vous aviez eu un problème un peu de business model, en fait. Aujourd'hui, du coup, sur la nouvelle version de l'entreprise, comment ça marche? Comment vous gagnez des sous?
Alors, le business model, il est simple. Ce qu'on fait sur la résidence principale, green, il y en a plein qui l'ont déjà fait sur la résidence locative, Mastéos, Beanstock, hein, pour ne citer que eux. Ils sont inspirants parce que c'est les premiers à être arrivés à vraiment craquer le marché côté acquéreur. C'est-à-dire qu'on a un marché immobilier en France qui est exclusivement côté vendeur. Les agents immobiliers travaillent et facturent des honoraires aux vendeurs, mais il y a très peu, il y a quelques réseaux de chasseurs immobiliers, mais qui répondent à des besoins très spécifiques de clients qui n'ont absolument pas la possibilité de se déplacer ou de visiter. Et donc, Mastéos, pour moi, et Beanstock ont vraiment craqué côté utilisateur, enfin côté acquéreur, le marché. Donc nous, notre business model, il est relativement similaire. On a un mandat de recherche simple. C'est-à-dire que les clients nous mandatent pour trouver des biens immobiliers, sans exclusivité, bien sûr. Ils peuvent faire leur démarche de leur côté et acheter s'ils le veulent. Mais tous les biens qui seront présentés dans notre plateforme, bah, s'ils les achètent, ils devront nous payer des frais. Et donc, du coup, on a des frais au succès. Donc, si le bien est acheté, qui sont de 4%. Donc, ça va varier pour nos clients entre, selon leur budget, entre 6 et 10, 12 000 euros de frais, à devoir Frida Green, sachant que ces frais sont inclus dans le financement, donc on les emprunte, ils sont présentés lors de la présentation du projet. Et surtout aujourd'hui, hein, d'ailleurs, alors on n'a pas encore fait 300 projets, mais sur les quelques premiers projets qu'on est en train de finaliser, on a systématiquement économisé ces frais lors de la négociation, puisque on a une moyenne de négociation des prix du bien aujourd'hui qui sont entre 8 et 10%. Parce que du coup, on arrive avec des outils de professionnels. Hein. Donc aujourd'hui, on est capable d'historiser complètement une annonce. Quand un bien immobilier est à vendre, on appelle l'agent immobilier, on dit bon bah, on a vu que ça faisait 3 mois qu'il était à vendre. Bon, marché il est un peu compliqué, c'est un DPEG. On en a pour 30 000 euros de travaux en face. Bah, on parle entre professionnels qui apprécient complètement notre intervention parce que c'est très désagréable pour un professionnel de vendre un bien. Le DPE il est mauvais, le client va faire une offre. Puis il va commencer à appeler des gens autour de lui pour se renseigner. Il va dire, bah non, c'est trop compliqué, je laisse tomber. Donc, quand il y a un bien qui a une particularité, et aujourd'hui, clairement, un bien avec un mauvais DPE, il a une singularité. Le fait qu'on arrive, nous, pour aider à mieux vendre et à vendre plus facilement ces biens avec des particularités, les professionnels sont assez enthousiastes. Petite info, hein, depuis janvier 2023, se loger le bon coin. Le DPE est un critère de sélection. Ça n'existait pas avant. Hein. Maintenant, on peut choisir d'aller soit chercher, on a les deux, hein, soit chercher des mauvais DPE pour aller faire des grosses négos, soit effectivement d'exclure parce qu'on se dit trop compliqué.
Ouais, bien sûr. Non, c'est hyper intéressant et je suis d'accord avec toi qu'avant on n'en parlait pas trop et que maintenant c'est un sujet. Enfin, j'ai une copine qui est en train de vendre un appart et malheureusement le sien est très mal noté. Et effectivement, c'est pas si simple.
Si tu regardes les enjeux, enfin pour les rappeler, on a un objectif de neutralité carbone en 2050. Il y a 26 millions, juste en France, hein, je parle pas de l'Europe, en France, 26 millions de logements à rénover d'ici 2050, c'est les objectifs. Donc forcément, on va y être tous concernés. En tant qu'individu, notre logement, c'est 20 à 30% des gaz à effet de serre qu'on émet tous les ans. L'impact sur notre logement, il peut être super important. En faisant pas grand-chose, hein. Des fois, en faisant 5, 6 000 euros, 10 000 euros de travaux. On divise par 3 le coût de la facture d'énergie, on change de système de production d'énergie, hein, je sais pas, une chaudière au fioul, une chaudière à gaz, on prend l'énergie beaucoup plus propre, beaucoup moins carbonée comme de l'électricité, et ça change déjà beaucoup de choses. Donc, je trouve que c'est quelque chose d'assez vertueux parce que des fois, il y a des côtés où c'est très contraignant, où on nous oblige à, et où c'est difficile d'appréhender ça, mais aujourd'hui, on appréhende la rénovation énergétique avec en plus bah, c'est le moment de faire un petit coup de blanc donc on se retrouve avec un appart qui va être tout nickel un petit peu retapé super bien performant d'un point de vue énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la facture tous les mois elle baisse. Enfin, encore une fois une petite donnée augmentation de l'électricité enfin du coût de l'énergie au 1er février ça aurait dû être plus 100% en France, hein. On aurait dû faire x2. On l'a pas fait parce qu'on a un bouclier fiscal de 45 milliards qui est prolongé en 2024. En Angleterre, ils ont fait x2 au niveau de l'énergie. C'est un sujet qui devient fondamental pour eux. J'ai lu un truc, c'est hallucinant. En Angleterre, ils vendent des recharges d'énergie. C'est-à-dire que, en fait, c'est une espèce de clé que tu achètes au bureau de tabac. Tu as le droit à X kilowattheure, kilowatts. Et tu vas acheter, donc tu dis, bon, allez, il fait froid, je vais me chauffer pendant 2 heures. Tu vas au bureau de tabac, t'achètes ton truc et t'as 2 heures d'électricité. Enfin, c'est quand même hallucinant de se dire que dans un pays développé, on en est allé acheter des recharges d'électricité tellement c'est devenu quelque chose qui est excessivement cher.
Oui, tout à fait. Hyper intéressant, mais on digresse un petit peu. Donc, je recentre un chouïa sur
Revenons.
l'entreprise. Désolée d'être très
Non, non, non,
pragmatique,
je t'en prie.
mais sinon, on va faire un épisode qui va durer 1 heure et demie et je pense qu'on va perdre un peu les gens. Je reviens un peu à Frida Green, pardon, et je suis assez intéressée parce que tu me dis, donc ça fait à peu près 1 an que vous avez changé de business model.
Non, non, business model, on a commencé à y réfléchir l'année dernière, mais on a vraiment fait le pivot cette
Ah,
année en
d'accord.
mars.
Ok.
Ouais, c'est très récent.
Pardon. Ah oui, donc
Love
c'est très
Frida
récent, en
Green, c'est
effet.
mars, ouais, Love Frida Green, elle date de mars.
Ok. Et alors, du coup, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu, est-ce que tu as quelques petits chiffres à nous donner quand même sur ces premières années d'activité Combien vous êtes dans l'équipe, comment vous êtes organisé, tu vois, tout ça.
Wow. On était un peu plus il y a quelques mois, mais forcément avec le pivot et avec bon après je pense que c'est sociétal pour les startups. Hein. Donc aujourd'hui on est une dizaine chez Frida Green. On a une quinzaine de clients pour l'instant, de premiers clients que l'on a depuis donc depuis le mois de mars, date de lancement de notre offre. Et l'idée, c'est d'aller très focus, uniquement business, uniquement développement commercial, de manière à aller chercher assez rapidement. On ne sait pas comment va évoluer les levées de fonds, donc d'aller chercher assez rapidement le break-even. Ça, c'est l'objectif. C'est le changement aussi, hein, de paradigme. On n'en a pas parlé, mais le modèle économique que l'on avait avec l'application mobile est un modèle économique où on mettait quand même très très longtemps avant d'être break-even. L'évolution du financement des startups est aussi un des éléments qui nous a fait faire un pivot. Et donc, on essaye d'être beaucoup moins dépendant de fonds publics ou privés.
Ok, top. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est que, parce que j'en interviewe pas beaucoup, et il y en a de moins en moins, ou en tout cas, on a l'impression, des startups qui sont plutôt B2C. Et je trouve que c'est assez intéressant. Bon, du coup, tu as plein d'enjeux, évidemment, en étant une startup B2C. Et l'un des enjeux, c'est notamment la relation client, évidemment. Ce qui est un sujet aussi en B2B, hein, mais c'est quelque chose que tu traites différemment en B2C. Et du coup, j'ai des petites questions à te poser sur un peu comment vous gérez ça de votre côté chez Frida Green. Et notamment les canaux de communication que tu utilises, parce qu'on parle beaucoup d'automatisation en ce moment, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les canaux de communication que vous utilisez, vous, chez Frida Green, et en fonction des différentes étapes, tu vois, du parcours des clients?
Bien sûr. Aujourd'hui, alors, on a utilisé un truc qui est extrêmement basique, qui marche du feu de Dieu. Je connaissais, mais je l'avais jamais utilisé. WhatsApp Business. C'est vraiment une folie, WhatsApp Business. Du coup, avant application mobile Frida, on avait un chat, donc on interagissait principalement avec nos clients par chat. On avait un Zendesk, donc du coup, on gérait les réclamations clients avec des softs de cette nature-là. Là, Frida Green, c'est une offre de service, hein. Frida, c'est vraiment un product. Là, c'est vraiment du service. Donc, on est en interaction humaine systématiquement. On a en moyenne 2 à 3 personnes à travailler avec le même client. Et WhatsApp Business, c'est génial. On met tout le monde dans le groupe WhatsApp. On peut automatiser un certain nombre de choses, automatiser des messages. Et on peut complètement personnaliser. Du coup, puisque on peut faire une note vocale, on peut partager un document, on peut écrire, on peut partager un lien. Et donc, on a fait le choix d'aller très vite. Le principe, hein, du pivot, c'est d'être capable. On avait un mois pour arriver à lancer le nouveau business. On y réfléchissait depuis quelques mois, mais voilà, on s'est dit on a un mois. Du coup, on a été très efficace. Et relations clients, on utilise donc du coup WhatsApp Business. Et côté interface client, on utilise une app en no code qui nous permet de restituer à nos clients les projets immobiliers qu'on leur partage. Et du coup, ça a permis à l'équipe à se focaliser vraiment que sur la tech, que le développement de la tech, le reste étant traité en no code. Mais ouais, WhatsApp Business, dingue en termes de qualité d'expérience aujourd'hui.
Ouais, hyper intéressant. Et du coup, tu penses que la place des relations humaines, en fait, chez vous, elle reste centrale par rapport à l'automatisation?
Oui, alors elle est centrale, la relation humaine, parce que ce sont des relations humaines. Et tout l'enjeu, lorsqu'on est sur du service, c'est comment tu scales. Si à chaque fois, il faut répondre au téléphone, si à chaque fois, il faut bloquer un temps, c'est très difficilement scalable. L'automatisation va permettre de scaler et donc du coup de se rendre disponible que dans des moments précis. Tout l'enjeu, c'est que côté client, on ne ressent pas. Aujourd'hui, pour moi, il y a encore dans la relation client des différences très marquées entre le moment où on parle à un bot et le moment où on parle à un humain. Je pense par contre que ça va changer parce que ce que l'intelligence artificielle est en train de construire là génère des interactions qui sont beaucoup plus difficiles à pouvoir dissocier entre je parle à un interlocuteur ou je parle à un bot. Et ça, c'est l'avenir effectivement de l'automatisation, c'est-à-dire que l'humain ne va rester qu'un expert. Mais par contre, le besoin immédiat d'un client sur une information, sur quelque chose qu'une IA pourra trouver assez simplement, il n'aura pas les besoins de déranger un expert, il le fera lui-même. Et je pense que ça va changer effectivement l'automatisation. Aujourd'hui, dans la relation B2C, dans une offre de service end-to-end, on est très très dépendant. Hier à 23h, j'étais en train de répondre sur DocuSign un commentaire sur un mandat. Je le fais parce que j'étais en train de boire des coups avec l'équipe et que ça me gêne pas et que c'était cool. Mais demain, une IA peut complètement répondre à un commentaire sur un DocuSign pour gérer cette question-là.
Mmh. Parfait, tu as devancé ma question suivante qui était quelles technologies vont participer à l'optimisation de l'expérience client? Donc,
Ah,
nickel.
pour moi, l'IA, ouais, l'IA, parce que, en plus, moi, je suis personnellement très exigeant dans les interactions que je vais avoir. Et donc, du coup, ça m'a toujours, j'ai toujours été extrêmement freiné ou perturbé par des bots qui faisaient un peu n'importe quoi. Enfin, on a toute l'expérience, hein, on appelle un serveur vocal et il nous fait tourner en rond pendant des heures. Et je pense que l'IA va vraiment chambouler. Nous, on le voit parce qu'on commence à alimenter de l'IA sur qui on est. L'idée, c'est de nourrir qui on est, expliquer notre business. Ça, c'est un travail qui est fondamental. Mais je pense que demain, quand une IA aura vraiment compris le business, aura toutes les informations, aura accès à toute la donnée, un Notion parfait qui expliquera tout, bah, question d'un client, est-ce que ceci, cela? Réponse, bam, immédiatement. Donc, je pense que c'est pas pour tout de suite, ce sera pas demain que ça va être mis en place, mais je pense que dans les prochains mois ou dans les prochaines années, si on arrive à bien alimenter, à bien expliquer à une IA comment fonctionne la boîte, on n'aura plus besoin, parce qu'aujourd'hui, en fait, on formate des questions. On suppose la question du client, il va poser telle question, donc tu lui réponds ça, mais ça marche pas parce que la question du client, elle est toujours un peu différente, elle n'est pas complètement dans ce sens-là, et la réponse que tu lui apportes, elle n'est pas précise. Demain, l'IA, il doit avoir une base de données avec toutes les données de l'entreprise, et il doit être capable de répondre et de supposer un certain nombre de choses. Donc, je pense que sur la relation client et l'automatisation, ça va vraiment, vraiment changer les choses.
Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, les humains, ils vont rester vraiment experts du sujet, mais au moins comme ça, tu gagnes un temps, enfin, tu libères un temps qui va plus être concentré sur l'expertise, le conseil, et c'est ça qui est
J'ai un
intéressant.
Exemple très précis. J'ai testé là récemment sur du juridique, des trucs très compliqués. J'avais pas envie d'emmerder un pote avocat, parce que quand on est avocat, on est toujours du monde. Enfin, dès qu'on est expert de quelque chose, on a toujours tout le monde qui vient et vous appelle pour poser une question. Donc, je me suis dit, OK, vas-y, ChatGPT, je prends le temps, un prompt bien quali, je lui explique tout. Ça a été génial. Ça veut pas dire que j'ai pas été discuté avec mon pote avocat après, mais il a fait un travail de malade. Et il y a un endroit sur une question, j'ai dit, OK, ça, d'accord. Et j'ai appelé mon pote et j'ai dit, bon, alors, j'ai un sujet très précis. Et même lui, il a apprécié parce qu'on rentrait vers quelque chose de très technique. Et je lui posais pas une question auquel il a répondu 300 fois. Et où ça le fait chier de répondre 300 fois. Donc, en rien, ça n'enlève l'expertise. Je vais pas décider d'engager une procédure ou de prendre une décision, très importante sur la base de ce que va me dire une IA. Par contre, ça me prépare. Ça fait un travail préparatoire qui est, à mon avis, dinguissime.
Oui, d'ailleurs, ce qui est un peu ce que tout le monde dit hein, là-dessus, c'est qu'il ne faut pas non plus faire confiance de façon aveugle à l'IA parce qu'elle peut donner des choses erronées, etc., mais de moins en moins. Mais qu'effectivement, ça fait gagner un temps fou dans la préparation, notamment. Quoi.
Et si on prend les questions clients, je pense que 90% des questions clients sont des questions simples sur lesquelles on peut répondre simplement et l'expert doit se concentrer sur les 10 qui sont un peu plus compliqués.
Oui, tout à fait, tout à fait. Dernière question sur Frida Green avant de clôturer notre discussion. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que sont vos ambitions 2023 et au-delà ?
Ouais. Alors, l'ambition, c'est d'essayer d'aller, enfin, c'est de faire une cinquantaine de projets d'ici la fin d'année. Donc, on reste sur quelque chose d'assez mesuré. Encore une fois, parce qu'on veut pas mettre trop de pression et partir trop loin. Donc, à peu près une cinquantaine de projets. Et aussi, ce qu'on est en train de faire, on pourra en discuter. Notre techno commence à intéresser de plus en plus de monde, notamment les professionnels de l'immobilier. Donc, encore une fois, notre techno fait de la prédiction d'amélioration de DPE, de la prédiction et du chiffrage. Et on est en train d'équiper un certain nombre de professionnels de l'immobilier de nos technos. Et donc, l'ambition serait effectivement d'avoir peut-être une nouvelle impulsion qui serait complémentaire à Frida Green, qui est vraiment du service B2C, mais de pouvoir massifier, entre guillemets, un peu plus nos actions, parce que nous, si on fait un par un avec nos clients, ça prend du temps, alors que si demain, un Se Loger, un Leboncoin ou un grand réseau a accès à notre technologie, ça permettra de massifier. Donc, l'ambition, c'est vraiment que il y ait de moins en moins de passoires thermiques qui soient achetées sans qu'il y ait des travaux de rénovation énergétique dessus. Donc, c'est vraiment ça l'objectif.
Et ça, tu le vois comme un nouveau canal de distribution pour Frida Green? Tu penses que ce serait un autre projet? Tu l'envisages comment pour l'instant?
En vrai, on sait pas trop. Ça nous est tombé dessus. Hein, je vais être complètement honnête avec toi. Ça nous est tombé dessus. Nous, on pensait faire notre truc. On a fait déjà un pivot, ça va. Là, on vient de dire non, mais je veux. Donc, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que On va bientôt équiper quasiment 15% des agences immobilières via un distributeur, voilà. Mais comment, pourquoi, je sais pas. Notre techno, elle est existante, on peut l'équiper. Qu'est-ce qu'on en fera? Bien entendu que c'est pas gratuit. Donc bien entendu, à minima, c'est un business model. Est-ce qu'il sera complémentaire? Est-ce qu'il sera, est-ce qu'il va manger Frida Green? J'en ai aucune idée. C'est vraiment trop tôt aujourd'hui. On ne peut pas se défocuser de ce que l'on fait, mais forcément, quand on vient nous voir et qu'on audite notre techno et qu'on nous dit, attends, mais il faut que toutes les annonces immobilières demain et ça, bah oui, on y est censé pas. Notre enjeu, c'est que le maximum de personnes puissent avoir accès. Et si ça passe effectivement par la distribution B2B, bien sûr.
C'est un bel objectif, donc super. J'ai deux dernières questions pour toi. Vas-y. Et qui sont plus des questions d'inspiration. D'abord, est-ce que tu as des ressources à nous conseiller, livres, podcasts, newsletters, tout ce que tu veux?
Alors, c'est une bonne question. J'en lis un peu moins ces derniers temps, depuis qu'on a été un petit peu obligé de se concentrer full focus. Donc je vais revenir sur des choses qui sont un peu plus anciennes, mais qui ont été quand même très structurants pour moi dans la démarche d'entrepreneuriat startup. C'est LC Business de Jean-Charles Samuel-Verbe de Alan. J'ai trouvé que c'est un bouquin magnifique sur la culture d'entreprise. Moi, j'ai vécu vraiment quelque chose de complètement différent entre mon ancienne culture d'entreprise sur l'entrepreneuriat un peu classique et l'entrepreneuriat startup. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de super intéressant dans la construction de la culture d'entreprise. On veut être une marque B2C avec une culture d'entreprise très présente. C'est mécanique. Enfin, moi, quand j'ai commencé à discuter avec des personnes sur le chat d'Alan, c'est des expériences magiques parce que les gens sont heureux de ce qu'ils font. Ils aiment leur boulot, ils sont fiers de leur produit, de leur marque. Donc ça, ça a été vraiment, vraiment intéressant. La culture d'entreprise d'Alan, la culture d'entreprise de Shine aussi, on s'est beaucoup inspiré de ce qu'ils font. Ils ont moins communiqué, mais ils ont une super culture d'entreprise, Shine. Et enfin, un autre bouquin aussi qui m'a fait beaucoup rire, c'est La règle, pas de règle du CEO de Netflix. Pareil, très intéressant sur la vision très américaine de l'entrepreneuriat et aussi de l'histoire de Netflix qui est pas très connue.
Super, merci pour ces recos. Et ma dernière question, est-ce que tu as un entrepreneur ou une entrepreneur de la fintech ou une fintech qui t'inspire particulièrement? Ou assurtech, hein, fintech au sens large.
Nadim de Livre Épée. Je trouve que son projet, il est très... Alors, c'est fintech, proptech. J'aime bien parce qu'ils sont vraiment entre les deux. Enfin, j'aime le bonhomme. Hein. Je l'ai rencontré assez récemment, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié le bonhomme. Et dans un environnement où l'argent coûte plus à flot, où les levées de fonds sont plus difficiles, il a monté une boîte, Crédit.fr, qui est quand même une super belle boîte. Et je trouve que ce qu'ils font avec Livre Épée, alors je suis B2C, je suis app, et donc quand j'ai vu son produit, forcément j'ai kiffé, j'invite tout le monde à aller télécharger l'app mobile. Donc je trouve que c'est très intéressant ce qu'ils font en expérience utilisateur, en gamification, autour du coup de l'immobilier et de la finance, je trouve que c'est très intéressant.
Eh ben top, merci beaucoup Manuel pour cette discussion.
Merci beaucoup.
Vous êtes arrivé au bout de l'épisode de Fintech de cette semaine, merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec une ou deux personnes de votre connaissance et éventuellement à nous laisser un commentaire et une note sur les App Store. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.